Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Bien écoutez, le plaisir de la radio, le plaisir de l'enregistrement. Nous devions faire une émission avec Laura à propos du CID, le spectacle de la Comédie Française retransmis au Kinépolis Nîmes. Et Laura a malheureusement un imprévu. Donc me voilà seule au micro, mais Laura nous m'a laissé des notes puisque c'est une fan de Benjamin Laverne et elle l'aurait aimé bien sûr parler de ce Don Rodrigue interprété avec panache par Benjamin Laverne. Le sujet tout de même de notre émission était plus large tout de même que le CID, c'était le cinéma, l'évolution du cinéma avec des retransmissions de divers spectacles et combien le cinéma devient un lieu d'expérience culturelle. Ce n'est plus qu'un lieu de projection de films, c'est vraiment des pratiques nouvelles et on va commencer tout de même par le CID. Alors le CID, la Comédie Française, s'est associé à des salles, au groupe Pathé, depuis 2016. Et chaque année, il y a 3 ou 4 pièces de leur répertoire qui est donc retransmis dans les salles sur grand écran avec ce plaisir de voir de près les comédiens et comédiennes filmés. Alors bien sûr, plusieurs nous disent « Ah, rien ne vaut le spectacle vivant ». Mais assister dans un fauteuil confortable, en voyant de près, dans un son magnifique, la représentation, c'est aussi une expérience qui mérite le détour. Alors, le CID est une tragicomédie de Pierre Corneille qui se déroule en Espagne au XIe siècle. Je ne vais pas vous refaire le résumé de la pièce. Mise en scène cette fois-ci par Denis Podalydès et c'est une merveille. Alors, vous savez certainement que la Comédie Française est en travaux, donc elle est expatriée dans plusieurs salles. Et là, ça a été enregistré au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et jusqu'au 17 mai, toutes les représentations sont complètes. Alors, voilà encore une autre raison pour dire c'est très bien qu'il y ait des retransmissions au cinéma, parce que souvent, on est éloigné géographiquement. Hein, Paris, ce n'est pas la porte à côté. Et les billets de TGV sont chers. Et puis, souvent, on n'arrive pas à avoir une place ou à quel prix. Et c'est une façon aussi de décider peut-être des personnes à aller voir des pièces de théâtre. Alors là, pour le CID, je pense qu'il y a eu un effet Benjamin Laverne. Après sa prestation retransmise à la télévision, tout le monde a connu Benjamin Laverne. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années dans les fourberies de Scapin, à la Comédie Française, au cinéma. Une pièce assez admirable par cette mise en scène, par la scénographie d'Éric Ruff, par des costumes de Christian Lacroix et une musique inspirée de Jordi Savall. Nous sommes dans l'Espagne du XIe siècle, nous sommes dans une époque arabisante et on écoute une bande-annonce très courte en fait. Je ne sais pas pourquoi cette bande-annonce est si courte. C'est la première scène entre Don Diaz et Don Gomez qui est le début du drame, hein, puisque l'un soufflette l'autre qui veut absolument être vengé. Et c'est la première scène sans parole, en musique. Nous écoutons. Alors j'aimerais encore une fois parler de cette troupe de la Comédie Française. C'est bien une troupe, ils sont sociétaires de la Comédie Française. Ils saluent tous à rang égal. Et j'aimerais citer quelques-uns des noms. Tous sont absolument merveilleux. Alors, j'ai déjà cité Benjamin Laverne. Je voudrais citer les plus anciens que j'ai vus tout jeunes et que je vois vieillir, mais toujours aussi charismatiques dans leur rôle. Didier Sandre en Don Diègue, Daniel Lebrun en gouvernante de l'Infante. Et puis des jeunes, tout nouveaux, Marie Aupert, qui joue une Elvire pleine de vitalité, de grâce, d'énergie. Et puis Bakary Sangaré, le premier roi de Castille, qui donne une note presque comique à ce roi. Et je trouve ça formidable parce que même dans une pièce de Corneille, peut-être dans cette mise en scène, on arrive parfois à rire. Et même si on dit rien ne vaut le spectacle vivant parce qu'on sent l'énergie de la salle, là, au cinéma, au Kinépolis, tout le monde souriait en même temps. Je finirai par Souliane Brahim, qui joue une chimène remarquable, pleine d'ambiguïté, la passion, ça, elle aime Don Rodrigue, mais elle a le sens du devoir, et c'est un côté obsessionnel que je trouve absolument magnifique. Donc voilà pour la comédie française. L'horaire, vous aurez certainement parlé davantage de Benjamin Laverne. Je signale simplement que dans la scène si connue quand il raconte le combat contre les morts, il est sans dévoiler, il est sur un faux cheval et il rythme sa déclamation avec les tambours et c'est absolument prodigieux. Donc vive la retransmission au cinéma, je pense ça très important. Alors, les salles de cinéma offrent une... Là, je vous lis un peu ce qu'avait préparé Laura, que j'associe tout à fait à cette émission. Les salles de cinéma offrent une programmation de plus en plus diversifiée. On trouve aussi des concerts d'artistes. Alors, je n'aurais pas peut-être cité cela, mais Laura cite Billie Eilish, Taylor Swift, Pink Floyd. Moi, j'aurais cité, je ne sais plus comment on les appelait, les trois, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Il y a également des spectacles d'humour avec des captations de stand-up. Prochainement, je vais aller voir Paul Mirabel. Je ne sais pas si j'aimerais pendant 2 heures de spectacle, mais il faut tenter et surtout tentons. C'est ça qui est important dans le cinéma. Alors, des pièces de théâtre, des concerts d'artistes, des spectacles d'humour. Mais le Kinépolis est aussi spécialisé dans les opéras et les ballets. Alors depuis des années, je crois que depuis le début, ça doit faire presque une dizaine d'années, le Kinépolis propose les opéras du Metropolitan et j'y ai vécu des moments absolument fabuleux. Je citerai comme en mémoire, puisque dans la deuxième partie, je parlerai un petit peu de mes souvenirs personnels. J'ai un souvenir marquant du Crépuscule des dieux avec les Valkyries qui sont accrochées au cintre et qui chantent, accrochées vraiment, étant dans l'air, et oui, dans l'air, dans l'espace. Et dans la retransmission des opéras, on va également dans les coulisses lors des entr'actes et les Valkyries, les trois Valkyries, nous racontaient combien c'était difficile, dangereux, un peu terrorisant de chanter ainsi, suspendu dans les airs. Alors au Kinépolis, il y a aussi de temps en temps les opéras de l'Opéra Garnier, beaucoup moins souvent, ainsi que beaucoup moins souvent les ballets de l'Opéra Garnier. Voyez un peu les programmations et c'est assez fantastique d'être sur place. Alors Laura note aussi que des événements prestigieux sont diffusés, comme la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, et cette année, ce sera le 12 mai. Alors, chacun choisit. Moi, je sais que personnellement, ça ne m'intéresse absolument pas de voir ces défilés de vedettes photographiés par des centaines, enfin centaines, c'est peut-être beaucoup de photographes. Un défilé de mode bien loin, en fait, de la production cinématographique. Ne pas oublier que le Festival de Cannes, c'est aussi un marché du cinéma et que derrière cet aspect people, il y a tout l'industrie du cinéma qui fait vivre énormément donc de personnes. Diversification des contenus, les cinémas tendent à devenir de véritables lieux d'expérience. Alors par exemple, là aussi c'est Laura qui le note, bien que j'ai vu Game of Thrones, il y a des gens qui se targuent de n'avoir vu aucun épisode de Game of Thrones, Moi, j'admets qu'au début, je n'étais pas du tout tentée. Et puis, je trouvais que c'était très violent. Et puis, au fil des épisodes, j'ai été pris au jeu. Donc, en 2015, les derniers épisodes de la saison 4 de Game of Thrones ont été projetés au cinéma. Et certaines séances pouvaient même être précédées de démonstrations de jeux vidéo. Alors, il faut penser aussi que là, on parle des grands groupes. Là, moi, je vous parle du Kinépolis, spécialement le Kinépolis de Nîmes, puisque nous sommes sur Nîmes. Mais il y a des salles plus modestes ou des salles indépendantes qui essayent aussi de mêler des projections, des séances de jeux vidéo. Donc là, ce n'est pas ma génération, bien évidemment. Soyons attentifs, justement, à ces autres formes de spectacles, en sachant que les cinémas ont été énormément concurrencés par les plateformes de streaming, par les équipements domestiques comme les vidéoprojecteurs, et que les cinémas doivent donc se réinventer pour continuer d'exister et attirer les spectateurs. Alors, Laura signale aussi, et c'est vrai que j'avais fait partie de la séance de démonstration que j'avais très très mal vécue, les dispositifs comme la DX, qui transforme la projection en expérience sensorielle immersive. Moi, j'étais très mal à l'aise avec ces fauteuils qui bougeaient, avec ces odeurs qui n'étaient pas terribles. J'ai souvenir d'une odeur de cannelle absolument persistante. Et pour moi, c'est plus une attraction que vraiment le film. Mais là, ce n'est que mon expérience, mon ressenti personnel. Donc, on pourrait dire, comme Laura le dit, que la salle de cinéma devient un espace hybride, capable d'accueillir différentes formes artistiques. Et que, en cela, le cinéma est vraiment un relais pertinent pour élargir l'audience et permettre à davantage de spectateurs d'assister, je le répète, à des opéras, à des ballets, à des concerts d'artistes, à toutes les expériences que je vous ai citées. Sans oublier tout de même le problème du prix. Tous ces spectacles que je vous cite, en vrai, en vivant, sont souvent très chers. J'ose même pas dire les prix de la Comédie française, encore que ce n'est pas le théâtre le plus cher. Quand je vois la folie qu'il y a actuellement pour aller écouter Céline Dion, on se dit que des gens peuvent mettre jusqu'à 300-400 euros dans une place. Bon, ça, c'est un autre problème. Donc, même si les séances sont assez chères, entre 20 et 30 euros, que l'on peut prendre des abonnements, je pense par exemple au Metropolitan, ça représente tout de même un prix, mais c'est tout de même beaucoup moins cher qu'un aller-retour New York pour le Metropolitan Opera ou un aller-retour TGV Paris plus un hébergement, etc. etc. Donc j'espère vous avoir convaincu, même si, et je répète, le spectacle vivant est toujours important. Et dans cette seconde partie, nous devions alterner entre Laura et moi, puisque bien sûr, nous n'avons pas les mêmes choix. On a 50 ans d'écart toutes les deux. Donc, je ne vais vous donner que mes expériences personnelles, ce qui m'a fait aimer le spectacle vivant, le ballet, le théâtre, le cinéma, que je continue régulièrement d'alimenter, surtout donc sur grand écran. Et je vais commencer peut-être par le ballet qui m'a émerveillée. C'était vraiment tout nouveau. Je devais avoir 14-15 ans. Mes parents m'ont emmené à la Porte de Versailles pour voir le ballet de Béjart sur la 9e symphonie de Beethoven. Et ça m'avait absolument subjuguée. Alors Béjart, Lausanne, passe cet été à Nîmes. C'est vraiment une occasion là, de voir du spectacle vivant, en plus dans un amphithéâtre. Mais vous voyez, j'ai encore le souvenir de cette pièce de Beethoven. Ce côté très nouveau, loin de la danse classique traditionnelle. Et donc, comme toujours, il y a un renouvellement permanent. Rien n'est jamais figé. Et soyez ouverts à toutes les nouvelles formes de spectacle. Donc, nous écoutons la 9e symphonie de Beethoven par Béjart. Alors sur Radio Alliance Plus, je vais terminer ce clap cinéma sans Laura en vous donnant un peu mes choix personnels, tout au moins mes expériences personnelles de spectacle vivant. Et je crois que c'est important que très jeune, on vous emmène voir des spectacles, on vous ouvre vraiment le regard. Et moi, en théâtre, je me souviens que j'étais en seconde, notre professeur de français, qui était horrible hein, d'ailleurs, nous a emmenés au TNP, au Palais de Chaillot, et j'ai vu les Troyennes de Ripide. Alors, ce n'est pas spécialement drôle, les Troyennes de Ripide, mais j'avais été subjuguée par la dimension du Palais de Chaillot, par la déclamation, par la mise en scène qui était très, très épurée. Et cela, bien sûr, explique que je vais toujours au Festival d'Avignon, surtout le Off, parce que le In a perdu pour moi son identité. Hein, j'allais au In dans les années 75-80. Maintenant, je n'aime pas cette grande salle de spectacle. Non, je ne vais plus au In et je me consacre au Off. Alors bien sûr, là, vous pouvez dire aussi d'où son spectacle, qu'est-ce que c'est que ça, comment choisir. Chaque année, je fais des émissions, levée de rideau, sur le Off. Et célébrons toutes ces troupes qui ont beaucoup de mal d'exister, alors qu'elles ont la même passion que les grands acteurs, que les grands comédiens. Alors la pièce de théâtre, moi, qui m'a émerveillée, je vais réemployer le mot subjuguée, excusez-moi, et on va écouter ensuite la chanson de Jacques Brel. Je ne sais plus exactement en quelle année c'était. J'étais étudiante à Nanterre et je suis allée voir le Don Quichotte chanté par Jacques Brel. Je me souviens que Robert Manuel était décédé brusquement et c'est Dario Moreno qui avait repris le rôle de Sancho Panza. Je n'avais pas beaucoup de sous, donc j'étais relativement au poulailler. Et pourtant, Jacques Brel m'a vraiment... c'était époustouflant. Et pourtant, j'étais loin et je n'avais pas de jumelles. Donc, nous écoutons La Quête, moi je préfère l'appeler l'inaccessible étoile.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Alors, je vais terminer cette émission en Remercions Laura de m'avoir donné ses notes malgré sa non-présence. J'espère vivement la retrouver. Elle termine son service civique, mais j'espère qu'elle reviendra en invitée pour nos émissions, voir cette jeunesse qui est passionnée par le cinéma et le spectacle en règle générale. Je vais terminer avec mes souvenirs personnels. Excusez-moi si ça vous trouble un petit peu. Surtout, comme a dit Louis, notre technicien, ce n'est pas très nouveau ce dont je parle. Mais bon, les films qui m'ont marqué quand j'étais jeune et qui m'ont donné envie d'aller au cinéma. À l'époque, quand on allait au cinéma, alors là, je vois mon âge, hein, je réalise combien je suis, entre guillemets, vieille. Il y avait un documentaire en première partie, il y avait les ouvreuses avec leur corbeille qui vendaient des Esquimaux. Je me souviens aussi des séances scolaires. Le cinéma de l'époque dans ma petite ville de banlieue s'appelait l'Excelsior. Je ne me souviens pas du deuxième nom. Et j'avais vu Ben-Hur, et Ben-Hur m'avait vraiment... J'avais eu très très peur. Hein, la scène des chars, c'était impressionnant. Pourtant, les écrans n'avaient ni la dimension ni la qualité actuelle. Mais je ne vais pas vous passer la bande-annonce de Ben-Hur, parce qu'on en a beaucoup parlé. On sort aussi des journées romaines, donc on a peut-être un peu notre dose de romanité. On passe régulièrement dans nos émissions Gladiator dès qu'on parle de la romanité. Je vais vous parler d'un autre film et je vous laisse deviner lequel avec la bande-annonce.
Et où placez-vous votre aile droite ?
À gauche.
À gauche. L'idée est plaisante. Et l'aile gauche à droite.
Non, si.
Bon, pour la tulipe.
Monsieur la tulipe, je vous fais grand compliment.
Monsieur Fanfan la tulipe.
Me voilà. Reste ici. Bon, je te prends.
Ne le mangez pas. Je vous passe le sabre à travers les tripes.
Toi, ne te montre
pas. Un homme ! Monsieur, vous avez été merveilleux. Oh, merci, monsieur.
Vous apprendrez comment je m'appelle, moi, Bougre d'Andouille.
Oh, joli nom. 10 ans de galère. Oh. Contre 7 ans de service, j'y gagne encore.
Je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur le soldat Fanfan la Tulipe. Si nous voulons mener cette affaire à bien, je crois qu'il serait bon de l'éliminer. Car en vérité, Adeline ne cédera jamais au roi tant qu'elle pourra aimer Fanfan. Et elle l'aimera jusqu'à la mort. Par conséquent.
Ne me touchez pas, je vous en supplie. Tu as giflé le roi. Mon rêve. Je t'aime, Fanfan. Je t'aime.
Je croyais à mon destin. Ne vois-tu, j'y crois encore.
Pas pour longtemps. Oh non. Quand on va casser sa pipe, hein. On perd le goût du tabac.
C'est la première fois que j'assiste à une exécution. Ah, il fallait voir ça avant de mourir.
Alors, vous avez deviné de quel film nous parlions. Je pense qu'il le cite d'ailleurs dans la bande-annonce. C'est de 1952, c'était pas hier. J'ai dû le voir quand j'avais une dizaine d'années. Je me souviens de la mort de Gérard Philippe, comme quoi c'était vraiment un deuil presque national, fauché dans la plus grande jeunesse. c'est bien sûr Fanfan la Tulipe de Christian Jacques, avec Gérard Philippe, avec Gina Lolo Brigida, avec Noël Roquevert, en fait des noms qui bien sûr maintenant font très passéistes. Et j'avais aimé ce film et ça m'avait donné envie, j'avais vraiment l'impression d'être dans le film. Est-ce que ce n'est pas cela que l'on cherche quand on va au cinéma ? D'être dans le film, d'être loin de la réalité, loin de notre quotidien, d'être vraiment immergé. Je vous parlais de 4DX, je vous parlais d'expériences sensorielles immersives, mais est-ce qu'on ne peut pas la vivre par notre imagination, justement, et par aussi la qualité des metteurs en scène, des comédiens, des danseurs, des musiciens? Et en fait, je finis ce clap cinéma par vive le théâtre, vive le cinéma, vive l'art, en fait, la culture, et j'espère que, et l'éducation également. Donc voilà, voilà mon petit leitmotiv de cette émission. J'espère que je ne vous ai pas trop gavé avec mes souvenirs d'enfance. À bientôt et merci.